Et le journal est présenté par Véronique Rebérotte. Bonsoir Véronique.
Bonsoir. Il y aura le cortège des indépendantistes et celui des loyalistes. En même temps, dans les rues de Nouméa, deux manifestations au point de vue antagoniste. En Nouvelle-Calédonie, cette nuit, hors de Paris, des appels au calme ont été lancés. Les explications de Stéphane Robert. Dossier aussi dans ce journal sur les dénonciations de violences sexuelles et sexistes à l'hôpital. Des accusations pèsent sur l'urgentiste Patrick Peloux, nous dira Mathieu Laurent. Le syndicat des internes des hôpitaux de Paris lance un appel à témoignage. À l'étranger, les menaces d'attaque de l'Iran sur Israël sont crédibles et réelles, estiment les États-Unis. Nous verrons comment Israël, qui a mené plusieurs raids meurtriers sur Gaza aujourd'hui, comment Israël se prépare à une attaque iranienne. Le Parlement polonais fait un pas vers la libération de l'avortement. Des textes sur l'IVG ont été adoptés en première lecture. Tous les espoirs sont donc permis pour les associations de défense des droits des femmes qui remportent peu de victoires dans un pays à forte tradition catholique. Deux manifestations pour un nouveau face-à-face politique tendu en perspective ce samedi à Nouméa. Avec le décalage horaire, ce sera cette nuit à l'heure de Paris. Deux manifestations qui concernent l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie avec les indépendantistes dans un de ces cortèges, les loyalistes dans l'autre. Les deux camps, plusieurs milliers de manifestants attendus de part et d'autre, prévoient de défiler à quelques rues d'écart. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir Véronique.
Des appels au calme ont été lancés car l'apaisement entre ces deux camps n'est pas vraiment d'actualité avant des échéances d'ailleurs électorales dans quelques mois.
Oui, la première manifestation à l'appel des Kanaks indépendantistes débutera tout à l'heure à 22h heure de Paris, 7h du matin à Nouméa et la seconde une heure plus tard, 23h à Paris, 8h à Nouméa, à l'initiative d'une partie du camp loyaliste. 20 000 manifestants sont attendus, 10 000 d'un côté, 10 000 de l'autre, ce qui est énorme à l'échelle d'un territoire qui compte 270 000 habitants. Et l'état d'esprit n'est pas à la concorde entre les deux camps, au contraire, les esprits s'échauffent depuis plusieurs semaines. Il y a d'ailleurs eu plusieurs incidents et des altercations ces derniers jours, notamment dans la commune de Saint-Louis, foyer de la contestation indépendantiste dans les années 80. Par conséquent, deux escadrons de gendarmerie, soit 140 gendarmes, ont été envoyés en renfort par le ministre de l'Intérieur, en plus des forces de sécurité déjà présentes sur place. En attendant, le représentant de l'État français, le haut-commissaire Louis Lefranc, a fait savoir qu'aucun débordement ne serait toléré et les autorités coutumières du côté kanak ont appelé tout le monde au calme et à la responsabilité.
Alors, il y avait déjà eu des manifestations du même type opposant indépendantistes et loyalistes, c'était il y a deux semaines.
Oui, avec 4000 manifestants d'un côté et 4000 de l'autre. C'était juste après le vote par le Sénat français d'un projet de loi constitutionnel modifiant le corps électoral calédonien. Celui-ci est gelé depuis les accords de Nouméa signés il y a 26 ans. Seules les personnes résidentes dans l'archipel avant 1998 peuvent voter aux élections locales. Et aujourd'hui, ça pose un problème démocratique. Le gouvernement français a donc imposé un dégel du corps électoral qui doit encore être examiné par l'Assemblée nationale et que rejettent les indépendantistes. Ils craignent que ça modifie l'équilibre des forces politiques sur place. Or, ils dirigent actuellement la plupart des institutions locales. Et ils demandent que ce dégel fasse partie d'un accord global sur l'avenir institutionnel de l'archipel dont il faut discuter quoi qu'il arrive puisque les accords de Nouméa sont arrivés à leur terme. La difficulté est qu'il n'y a aujourd'hui plus de discussion entre les deux camps qui se regardent en chien de faïence. En face, les loyalistes les plus radicaux veulent que l'État français impose le dégel et que des élections provinciales se tiennent comme prévu par le calendrier avant la fin de l'année. Et donc on en est là, avec un risque de résurgence des violences, comme dans les années 80, où, je vous le rappelle, il y avait eu plusieurs dizaines de morts. Pour ne rien arranger, la filière du nickel, qui est le cœur du réacteur de l'économie calédonienne, est fragilisée par la concurrence internationale et des centaines, voire des milliers d'emplois sont menacés. Ces deux manifestations à haut risque seront donc scrutées avec beaucoup d'appréhension, depuis Nouméa comme depuis Paris.
Merci Stéphane Robert. La présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté envisage de déposer plainte contre des conseillers RN pour incitation à la haine. En pleine séance plénière hier du conseil régional, des élus du Rassemblement national ont brandi des pancartes avec le message « Violeurs étrangers dehors » en soutien à des militantes d'un collectif identitaire de Besançon. Le week-end dernier, deux de ces militantes avaient brandi le même message lors du carnaval de Besançon, ce qui avait entraîné un dépôt de plainte de la maire écologiste de la ville, Anne Vigneault. Ses propos répétés associant immigrés et viols sont intolérables en tout lieu, qui plus est dans une enceinte républicaine, estime la présidente de la région, donc Bourgogne-Franche-Comté. En cette année olympique, on s'attend à ce que la surpopulation carcérale batte des records en lien avec les 15 ou 16 millions de visiteurs attendus en France, à Paris surtout, cet été, ce qui pourrait générer plus de délinquance. Les JO devraient potentiellement entraîner des incarcérations plus importantes. Or, les JO devraient être de l'avis d'avocats de plusieurs barreaux d'Île-de-France et de l'avis aussi de l'Observatoire des prisons, l'occasion de mettre un terme définitif à une situation qualifiée d'intenable dans les prisons françaises. Au 1er mars, près de 80 000 personnes étaient incarcérées pour moins de 62 000 places. Le taux d'occupation global s'élevait à 125% et à près de 150% dans les maisons d'arrêt où sont incarcérées les personnes en attente de jugement ou condamnées à des courtes peines. Les avocats alertent sur la situation avec un risque que les opérations Place Nette Antidrogue accentuent encore la pression. Or, Anne Fauquemberg, des solutions pourraient être mises en œuvre avant les JO.
Pour les représentants des avocats, on a passé le stade du cri d'alarme. Nous sommes maintenant en demande de réponse, explique-t-il. Agathe Grenouillet est membre du Conseil de l'Ordre en Seine-Saint-Denis. Elle est inquiète pour la maison d'arrêt de Villepinte.
Parce qu'on a 192% d'occupation, 40 matelas au sol pour le moment. Et il y a la perspective JO, bien évidemment, qui arrive. Il va y avoir une troisième chambre de comparution immédiate qui va être ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny. Et donc, qui dit plus de comparution immédiate, malheureusement, il y a un calcul qui est automatique, dit plus d'incarcération.
Même constat à la maison d'arrêt de Nanterre, où le taux d'occupation n'est pas loin des 200%. Le barreau des Hauts-de-Seine a déjà fait condamner deux fois l'État pour les conditions indignes de détention. Un nouveau référé liberté sera déposé la semaine prochaine devant la justice administrative, explique Maxime Cessieux. Il est le responsable de la commission pénale du barreau des Hauts-de-Seine.
Donc là, on leur fait une épreuve de rattrapage, parce qu'on est assez sympa, on est l'esprit coubertin. On estime qu'ils ont droit à quand même une troisième chance et que on va déposer ce recours. Il n'y a aucun suspense sur l'issue de l'épreuve. Je crains fort que l'État soit de nouveau condamné une troisième fois pour la troisième année consécutive. Bon, c'est peut-être un trophée qu'ils pourront mettre sur leur tableau de chasse, mais je ne suis pas bien convaincu qu'ils doivent s'en réjouir ni s'en féliciter.
Et pourtant, les solutions existent, poursuit Maxime Cessieux, comme ce mécanisme de régulation déjà testé pendant la crise sanitaire de 2020.
L'idée très simple du mécanisme, c'est que vous avez 60 000 places de prison, vous n'incarcérez pas plus de 60 000 personnes. Et quand vous voulez rentrer quelqu'un, vous en sortez un de l'autre côté. Vous sortez un détenu en fin de peine de façon anticipée, en aménagement de peine, en bracelet électronique, placement à l'extérieur, semi-liberté, libération conditionnelle. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes pour assurer le suivi du détenu à l'extérieur et qui est d'ailleurs plus efficace en termes de récidive.
Si l'État ne met rien en place, les avocats disent qu'ils auront prévenu d'éventuels suicides, de possibles violences, voire même de mutineries si l'été prochain est caniculaire.
La marche blanche organisée à Viry-Châtillon une semaine après la mort de Chemseddine s'est déroulée en l'absence de la maman de l'adolescent qui, ce sont ses mots, n'en avait pas la force. 2000 personnes environ ont défilé pour rendre hommage à l'adolescent, donc de 15 ans, battu à mort près de son collège. Des ballons blancs et des oiseaux ont été lâchés en clôture de cette marche. Le ministre délégué en charge de la Santé, Frédéric Valletoux, annonce qu'il réunira bientôt les associations, employeurs et professionnels de santé afin de travailler sur une réponse globale et ferme contre les violences sexuelles et sexistes à l'hôpital. Le sexisme et les violences sexuelles n'ont pas leur place à l'hôpital, a-t-il dit. Aucun écart ne doit être toléré. Parallèlement, le syndicat des internes des hôpitaux de Paris lance un appel à témoignages après la publication dans Paris Match d'une enquête d'Anne Jouan. Elle y fait état d'accusations de harcèlement sexuel et moral qui pèse notamment sur Patrick Peloux, médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France. Un livre est à l'origine de cette enquête, « Les femmes sauveront l'hôpital », signé Karine Lacombe, chef des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, là où travaillait Patrick Peloux. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir à vous.
Alors il faut d'abord souligner que l'enquête d'Anne Jouan, intitulée « Hashtag MeToo, l'hôpital, les masques tombent » et décrit des comportements inappropriés de la part d'autres soignants que Patrick Peloux, mais le capital médiatique de l'urgentiste est tel que ces révélations prennent une toute autre ampleur.
Oui, la première fois que Karine Lacombe prend la parole à ce sujet, c'est en 2020, dans les colonnes du journal Le Monde. 3 ans plus tard, à la sortie de son livre, Une approche systémique, elle évoque, je cite, « un urgentiste dont on sait qu'il est un prédateur sexuel ». Karine Lacombe.
J'ai parlé de ma propre expérience, donc vécue il y a 25 ans, aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, avec un des médecins qui y travaillait. Et en remontant le fil de l'histoire, Anne Jouan en est arrivée à la conclusion que ça devait être Patrick Peloux, parce que il y avait déjà beaucoup d'histoires qui circulaient dans le milieu médical et au-delà du milieu médical, l'attitude de Patrick Peloux envers les femmes.
Patrick Peloux, qui n'a pas répondu à nos sollicitations, ni en bloc, réfute tout harcèlement sexuel et parle, je cite, d'une époque où on n'avait pas le même rapport au sexe, fin de citation. Les faits qui lui sont reprochés sont de la nature suivante. Karine Lacombe.
Ce sont des attouchements, des propos à connotation sexiste, certains gestes qui pourraient maintenant être qualifiés d'agression sexuelle. Il faut que ça cesse, en fait. Il faut comprendre qu'on peut travailler à l'hôpital sans s'enfermer dans un mode de fonctionnement autour du sexe, avec un rapport qui est pathologique à la sexualité, et que l'hôpital s'en portera d'autant mieux qu'on l'aura purgé de ces attitudes qui maintenant sont répréhensibles.
L'information remonte alors au ministère de la Santé. En 2008, Patrick Peloux est muté, victime selon lui de discrimination syndicale. Anne Jouan, l'autrice de l'enquête publiée dans Paris Match.
Ce qui est important de noter en termes de contexte, c'est que virer quelqu'un à la PHP et le transférer comme ça d'un endroit à un autre, à savoir les urgences de Saint-Antoine pour le SAMU de Necker, c'est quelque chose d'extrêmement rarissime et c'est une litote.
Et pourtant, et c'est un fait, en novembre 2017, Patrick Peloux est invité à l'Élysée.
Pour le lancement de la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les violences faites aux femmes, le pouvoir et son entre-genre, obstacle parmi d'autres à la libération de la parole, selon Florie Sulreau, président de l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale.
Il faut que la honte change de camp. Mais en fait, aujourd'hui, à cause de la culture carabine, à cause des fortes hiérarchies à l'hôpital, le climat est peu favorable à la libération des paroles de victimes dans le système de soins. Donc c'est très bien que des gens connus, hein, comme Karine Lacombe, libèrent la parole, mais il ne faut pas oublier que cette parole, elle a un coût. Quand on nous parle de carrière brisée, c'est ce qui se passe réellement, un peu comme dans le cinéma, finalement. Parler a un prix, et même quand il y a de grosses vagues de solidarité comme celle-là.
Moyennant quoi, depuis 48 heures, Véronique, les témoignages affluent, selon Kaina Sadat, vice-présidente de l'Association nationale des étudiants en médecine.
Merci Mathieu Laurent. Une simplification au nom de la transition écologique et énergétique. Bruno Le Maire propose de moderniser le droit minier, divisé par deux, les délais d'instruction de permis de recherche des ressources du sous-sol. Le ministre de l'économie pense en priorité à la géothermie et aux gisements aussi de lithium et de cuivre, des métaux critiques précieux pour une transition énergétique, a dit Bruno Le Maire, avec l'objectif de gagner du temps et de permettre à la France de sortir des énergies fossiles et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces mesures s'inscriront dans le projet de loi de simplification pour les entreprises que présentera le ministère de l'économie et des finances le 24 avril prochain. Et puis la France entend aussi faciliter la reconversion de vieux puits pétroliers en lieu de stockage de CO2 pour les industries qui pourront difficilement limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, à commencer par les cimentiers. De telles reconversions n'étaient pas prévues jusqu'ici dans le code minier. C'est une transaction financière qui devait rester cachée, secrète, en juillet 2022. La chaîne Euronews a été rachetée par le fonds d'investissement Alpac Capital, dont le siège est au Portugal, pour un montant de 170 millions d'euros. En réalité, selon une enquête conjointe menée par des médias hongrois, portugais et français dans le journal Le Monde, des proches du premier ministre nationaliste hongrois, Viktor Orban, auraient également été à la manœuvre. Au moins un tiers de la somme déboursée pour le rachat de la principale chaîne européenne provient en réalité d'un fonds hongrois, alors, sous la tutelle d'une fondation présidée par le ministre de l'économie de Viktor Orban, selon des documents internes. Pierre Robert, merci de nous dire ce qui s'est passé.
Bonsoir, oui, c'est une présentation PowerPoint strictement confidentielle obtenue par le média hongrois Direct 36. Elle suggère que des considérations d'ordre politique ont joué un rôle dans le rachat d'Euronews. Le but, atténuer les prétendus biais de gauche du média considérés comme influents sur les politiques de l'Union européenne. Pour Marie Jamet, ancienne journaliste à la rédaction d'Euronews, la nouvelle n'est pas si surprenante. Les salariés du média avaient déjà interrogé la direction à propos des liens d'amitié entre leur actionnaire, le directeur d'Alpac Capital et Viktor Orban.
On était plus ou moins au courant, on avait nous eu peu de temps pour enquêter dessus, mais on avait interrogé la direction à ce propos à plusieurs reprises. Ils avaient démenti, Donc, en fait, ils nous ont menti frontalement en CSE.
Malgré les promesses de la direction, la question de l'ingérence des actionnaires d'Euronews fait d'autant plus sens que Viktor Orban, en Hongrie, a profondément remanié le paysage médiatique. Selon Marie Jamais, il s'agit aussi de comprendre pourquoi la France a validé le rachat d'Euronews.
Vu qu'il s'agit d'un média et qu'il s'agit d'un actionnaire étranger, ce rachat a dû être validé par le ministère des Finances. Aujourd'hui, on s'interroge vraiment sur quels éléments ils ont retenus dans leur enquête pour valider malgré tout ce rachat, quoi.
Une question d'autant plus pressante que se déroulent en ce moment même en France les états généraux de l'information voulus par Emmanuel Macron afin de mieux protéger l'information libre face aux ingérences.
Les appels à la retenue se sont encore multipliés ces dernières heures, des appels au calme qui font suite aux menaces lancées en milieu de semaine par l'Iran et l'ayatollah Khamenei qui promet de punir Israël pour la guerre qu'elle mène à Gaza et l'attaque aussi meurtrière du consulat iranien à Damas en Syrie imputé à Israël. Un porte-parole de la Maison Blanche estime ces menaces crédibles et réelles. Israël ne tolérera pas une attaque iranienne sur son territoire, ripostera, promet le chef de la diplomatie israélienne. Le pays, Alice Froussard, se prépare en tout cas sérieusement à cette éventualité.
Nous sommes en pleine guerre à Gaza qui continue à plein régime, mais nous nous préparons aussi à faire face à des défis sur d'autres théâtres d'opérations. Ce sont les mots du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, des déclarations qui font suite aux menaces renouvelées de Téhéran qui a précisé qu'il punirait Israël après une attaque le 1er avril sur le consulat iranien à Damas. Depuis ce matin, les Israéliens sont donc tous très vigilants dans l'attente d'une frappe de l'Iran. On nous rappelle à longueur de journée à quel point notre défense aérienne est la meilleure du monde, confiait une Israélienne qui préfère ne pas parler de panique. Sur le plan militaire, tous les journaux israéliens rapportent que l'armée et le Mossad ont approuvé des plans opérationnels offensifs pour attaquer le territoire iranien. Yoav Galan, ministre israélien de la Défense, a d'ailleurs rencontré le commandant du commandement central de l'armée américaine pour discuter des préparatifs en cas d'attaque iranienne contre Israël.
Après les États-Unis, c'est la France aussi qui rehausse son niveau d'alerte. Le Quai d'Orsay recommande aux ressortissants français de s'abstenir impérativement de tout voyage en Iran, en Israël, dans les territoires palestiniens, mais aussi au Liban. Israël et États-Unis se disent en tout cas côte à côte face aux menaces de l'Iran. Le pays compte des lois parmi les plus restrictives d'Europe. Pourtant, au Parlement polonais, une première étape en vue d'une libéralisation de l'avortement vient d'être franchie. Réunis depuis hier pour débattre sur la question, le Parlement a accepté les projets de loi qui lui ont été présentés en première lecture. Une vraie victoire pour celles qui, en Pologne, se battent pour le droit à l'IVG. Martin Chabal.
Elles ont sauté de joie dans les couloirs du Parlement polonais. Les quatre lois présentées pour dépénaliser l'avortement et le rendre légal jusqu'à la 12e semaine de grossesse ont passé la première étape. Elles seront maintenant examinées par une commission spéciale avant de revenir devant les députés. Mais cette victoire a quand même un goût amer pour le parti du Premier ministre Donald Tusk et l'aile gauche de la coalition au pouvoir. Bien que le projet de légaliser l'avortement jusqu'à la 12e semaine ait passé cette première étape, bon nombre de démocrates chrétiens du camp au pouvoir ont décidé de voter contre. Ils n'ont soutenu que leur proposition de loi pour n'autoriser l'avortement qu'en cas de danger pour la vie de la mère, lors d'une malformation du fœtus ou pour une grossesse résultat d'un viol. Les obstacles à ces projets semblent maintenant assez nombreux pour qu'ils deviennent loi. La majorité parlementaire semble divisée sur la question et les populistes du PiS pourraient leur bloquer le passage assez facilement.
La junte au pouvoir au Mali se comporte comme une junte. Elle vient coup sur coup de suspendre toutes les activités associatives et politiques et d'interdire aux journalistes de couvrir l'actualité des partis encore représentés dans le pays. Les militaires maliens serrent la vis à un moment où ils étaient engagés à remettre le pouvoir entre les mains de la société civile. Olivier Poujade.
Un message autoritaire est dans un très mauvais timing pour la junte d'Assimi Goïta qui impose le silence, rejette toutes les formes d'opposition alors que le régime malien, depuis le 26 mars dernier, devrait être en train de rétablir le processus démocratique en organisant de nouvelles élections. C'était une promesse des militaires, promesse à la population malienne et un engagement aussi vis-à-vis de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Mais le premier ministre Maïga, installé par la junte, affirme aujourd'hui vouloir attendre que le pays soit définitivement stabilisé. Il estime estime aussi que ceux qui réclament des élections font le jeu des ennemis du Mali. La centaine de partis politiques et d'associations qui composent le pays est donc priée de se taire, interdiction formelle de contredire la junte, mais sans résultat, sans victoire militaire sur le terrain, sans amélioration et en ne tenant pas ses engagements, Assimi Goïta et ses colonels continuent de s'isoler, de glisser lentement mais sûrement vers un régime totalitaire. Ce dernier tour de vis disqualifie toutes les voix représentatives du peuple malien, des populations qui jusqu'ici leur étaient plutôt favorables.
40,1 degrés record de température enregistré ce jour à Cuba. Le mois d'août est habituellement le plus chaud de l'année sur l'île des Caraïbes. Rappelons que nous sommes que le 12 avril. Demain, ce sera donc le samedi 13. Le soleil va s'imposer, chauffer un peu plus que de raison, que de saison, au nord comme au sud, avec une exception sur les côtes bretonnes et de la Manche. Les températures maximales varieront entre 17 et 22 degrés sur les côtes bretonnes et de la Manche, donc entre 23 et 28 degrés en général sur la moitié nord et entre 25 et 30 degrés sur la moitié sud.